Étienne allait donner sa vie, il allait mourir et il allait vivre ce que Jésus avait écrit quand il avait dit « Si le grain de blé tombé en terre refuse de mourir, il ne pourra jamais porter cette semence extraordinaire. » Et Étienne donne sa vie et c'est les vêtements de ces assassins sont jetés aux pieds d'un homme qui assiste à la scène qui s'appelle Paul. Et Paul approuve le meurtre d'Étienne. Rempli de haine, il va à Damas avec des lettres pour emprisonner les chrétiens. Il le dit lui-même qu'il a séparé des familles, qu'il a jeté des personnes en prison. Il va à Damas, mais il a une religion, mais il n'a pas de relation avec Dieu. C'était ce que l'on avait vu. Est-ce que tu as une religion, une relation avec Dieu? Ça fait toute la différence. Parce qu'une religion ne te rendra pas forcément meilleur. Ça te donnera des cadres, des principes de vie, c'est sûr. Mais une religion ne transformera pas ton caractère. Et Paul était quelqu'un de religieux et quelqu'un d'extrêmement dur. La religion peut te rendre très sûr de toi, très orgueilleux et très prompte à juger les autres. Et Paul était dur, jugeait les autres. Et sur le chemin de Damas, il a une vision de Dieu. Et je bénis Dieu parce qu'il est le Dieu qui donne des chances même à ceux qui n'en mériteraient pas. L'apôtre Paul a un passé d'assassin et Dieu lui donne quand même une chance. Il dit « Paul, Paul !» Pourquoi me persécutes-tu? Et là, Paul le religieux dit, mais je te connais pas, qui es-tu? Qui es-tu? Et cette voix dit, je suis Jésus que tu persécutes. Ça va bouleverser sa vie. Et d'intégriste fondamentaliste qui avait pour but de tuer les chrétiens, il va basculer complètement et on le retrouve très vite à Damas en train de prêcher, il dit, j'ai changé! J'ai donné mon cœur à Jésus. Est-ce que tu as une expérience personnelle comme lui? Ah, le temps a passé. On l'a retrouvé la semaine dernière parce que, alors qu'il a fait ses premiers pas dans l'église, ça s'est très mal passé. Et peut-être toi, quand tu as rejoint une église quelque part, ça s'est pas forcément bien passé. Parce que lorsqu'il est arrivé dans l'église de Jérusalem, tout le monde l'a jugé. Et tout le monde a voulu le tester. Est-ce qu'il est vraiment converti? Est-ce que c'est pas un traître? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui cache son jeu? Oh, il est pas comme moi, je l'accepte pas. Et l'apôtre Paul a eu beaucoup de mal, sauf que Barnabas. Barnabas l'a intégré. Barnabas l'a aidé. On avait vu la semaine dernière que, pour autant, Dieu avait mis un vrai délai dans la vie de l'apôtre Paul. Il ne s'est plus rien passé. Il y a une parenthèse dans la vie de l'apôtre Paul où il est comme mis sur la touche dans sa ville à Tarse. Et la semaine dernière, j'avais terminé en disant, peut-être que des fois dans ta vie, tu te sens sur la touche alors que tu as eu un début en feu pour Dieu. Les premières années, tu étais riche en expérience avec Dieu. Et puis tout d'un coup, une grande parenthèse. Jusqu'à ce que Barnabas, un jour, vienne frapper à la porte de Paul et dit « Paul, Dieu t'a pas oublié, on part ensemble, on part en mission. » Et c'est important de réaliser quelle est la mission que Dieu t'a donnée. Il est parti avec Barnabas, il était en numéro 2, alors que c'est un leader. Accepter parfois d'être en second, alors qu'on a un cœur de leader. C'est Barnabas qui a conduit à Chypre, etc. Il a fait quelques erreurs dans sa foi, parce qu'au début on est tout feu, tout flamme, on fait quelques erreurs, il était dur. Et puis on s'est quitté à Lystre. Vous vous rappelez ce qui s'est passé à Lystre? Ce miracle de Lystre, incroyable miracle. Il y a un homme qui était boiteux de naissance, infirme de naissance. L'apôtre Paul passe devant lui et rempli de compassion, Paul lui dit « Au nom de Jésus, lève-toi !» Et cet homme-là, qui n'avait jamais marché, s'est mis debout. Et tout le peuple de Lystre a dit « C'est Hermès !»« C'est Zeus !» En parlant de Paul et de Barnabas, catastrophe. Mais il a refusé les honneurs. On lui proposait un hôtel 5 étoiles à Lystre. Hein. Mais non, il a dit, je ne prendrai pas la gloire de Dieu. C'est Dieu qui a fait ce miracle. C'est pas nous. Il ne fait pas partie de tout. Des fois, c'est charlatan. C'est ces hommes que l'on voit à la télé qui, des fois, il y a des choses extraordinaires que Dieu fait dans une salle et il s'attribue l'honneur. Et vous, toi et moi, des fois, on a tendance à donner l'honneur aux hommes au lieu de le donner à Dieu. Et c'est très dangereux. L'apôtre Paul a refusé toute forme d'honneur. À tel point que la foule s'est retournée, dis donc. Alors qu'il le considérait comme un dieu, le vénérait comme un dieu à Lystre, à la fin de l'histoire, quand on s'est quitté la semaine dernière, ils l'ont lapidé. Ils l'ont lapidé. Seigneur, pourquoi? J'ai été intègre, j'ai été droit, j'ai été honnête. J'ai pas voulu prendre la gloire qui m'était tendue. J'ai voulu rester à ma place, je t'ai donné la gloire. Et moi j'ai la lapidation. L'apôtre Paul est laissé pour mort à Lystre. Mais il y a un deuxième miracle. C'est que alors qu'il est laissé pour mort, l'apôtre Paul qui avait dit par la foi à cette personne infirme, « Lève-toi !» Ce même apôtre Paul sait que le Saint-Esprit est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il sait que Dieu est le même pour les autres et que Dieu est le même pour lui. Et qu'il ne s'agit pas seulement pour nous de dire aux autres, Dieu t'aime, lève-toi, mais sais-tu que Dieu est le même pour toi? Et l'apôtre Paul, va, alors qu'il est par terre à moitié mort, il va se relever. Relève-toi, même si tu as aidé les autres dans le passé, c'est toi qui as été cassé peut-être par la vie, Dieu te dit, relève-toi. L'apôtre Paul s'est relevé et on se retrouve ce matin. Après l'importance de la révélation, qui était le grand 1, l'importance de la mission la semaine dernière, je voudrais vous parler de l'importance de la communion avec Dieu. On ouvre ensemble notre Bible dans le livre des Actes des Apôtres. Je vous rappelle que le thème de le texte fondateur, c'est puisque l'esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. Puisque l'esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. Acte 16. Alléluia, on va fermer les yeux ensemble. Seigneur, tu es le Dieu qui inspire ta parole et tu nous as laissé ce verset qui dit que tu veux nous aider à diriger notre vie. Je te prie pour la méditation de ce matin. Que ce ne soit pas seulement des paroles qui soient humaines, limitées. Seigneur, ce n'est pas une pensée humaine que nous voulons prêcher, c'est la Bible. Cette parole inspirée de Dieu, soufflée par Dieu. Je te prie pour que, en cette matinée, ici dans cette salle, quelqu'un puisse recevoir de toi, ne serait-ce qu'un mot qui vienne du ciel. Un mot qui vienne du ciel. Sois béni, Seigneur, parce que c'est toi qui nous donnes de pouvoir nous recueillir ce matin devant toi et chercher ton cœur, chercher ton conseil, chercher ta volonté pour nos vies. Au nom de Jésus, amen. Amen. Troisième aspect de la vie de l'apôtre Paul et les déceptions. Est-ce que vous avez connu des déceptions dans vos vies? C'est-à-dire, particulièrement, quel type de déception? Je ne parle pas des déceptions qui viennent de ce que la vie est dure. Il y a des choses qui dépendent de la vie, qui dépendent des personnes qui sont autour de nous. L'apôtre Paul a été lapidé à Lystre. C'était de la faute de personnes qui étaient extrêmement violentes, tordues, etc. Il y a des choses qui vont arriver dans ta vie où c'est parce que des méchants se sont élevés contre toi. Et Dieu t'aide. Dieu est avec toi, il n'empêche pas que les malheurs te frappent, mais il dit « je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Maintenant, il arrive aussi des fois que alors qu'on fait tout bien, qu'on a cherché le plan de Dieu et qu'on est entouré de chrétiens, notre vie, des fois, prend des directions que l'on ne comprend pas. Ça vous est arrivé ça? Ça s'appelle l'éducation de Dieu. Et ce matin, lorsque je vais parler de l'importance de la communion avec Dieu, vous voyez, moi j'ai un petit garçon, vous le savez, hein, Ethan. Maintenant, il approche des 18 mois. Il est dans la phase où je dois lui dire non. Pour tous ceux qui ont eu des enfants, vous savez ce que je veux dire. Vous savez, quand il arrive proche de ce placard dans lequel sont rangés les gâteaux, parce que Ethan mémorise très bien certaines choses, donc l'endroit où est caché les gâteaux, ça il sait. Il arrive devant le placard, il l'ouvre en regardant papa un tout petit peu et il commence à tendre sa main. Et là, je dois lui dire non, non, et avec toute cette manipulation qu'a déjà l'enfant de 18 mois. Mais toi aussi avec Dieu. Quand Dieu te dit non, tu es là, tu vas à la réunion de prière. Tu fais ta crise devant Dieu. Tu dis, Seigneur, pourquoi? un petit gâteau, Seigneur. Un tout petit, petit gâteau. Et vous savez, des fois, Dieu nous les donne. Moi, je, en tant que papa, je vais pas jouer au père méchant et toujours dire non. C'est pas un plaisir. Par exemple, hier soir, on était à la limite parce que normalement, le soir, il a pas le droit de gâteau, mais il avait tout bien fait son repas et mon cœur de père aussi a dit bon. Il me l'a demandé tellement gentiment que là, j'ai dit oui. Parce qu'il n'y a pas que des noms. Et Dieu, des fois, dit oui aussi. Dieu est bon et il est souple avec toi. Il te fait plaisir, des fois. Mais est-ce que tu vas rester à ce stade de petit garçon et ne pas comprendre quand Dieu te dit non? Quand Dieu te dit non. Regardez ce qui se passe dans la vie de l'apôtre Paul. On est dans Actes 16. Paul se rendit ensuite à Derbe, puis à Lystre. Il y trouva un disciple nommé Timothée. Sa mère était croyante d'origine juive et son père était grec. Les frères de Lystre et d'Iconium disaient beaucoup de bien de lui. Paul désira le prendre avec lui. Il l'emmena donc et le fit circoncire à l'égard pour les juifs qui habitaient dans cette région et qui savaient tous que son père était grec. Vous savez d'où il vient, Timothée? Vous avez vu? De Lystre. De Lystre. Ça vous dit pas quelque chose par rapport à ce que l'on a vu depuis déjà deux dimanches? Il vient de Lystre. Qu'est-ce qui s'est passé à Lystre? Paul a été laissé pour mort. Et si le grain de blé accepte de mourir, il porte beaucoup de fruits. Et dans ce malheur de l'apôtre Paul, je bénis Dieu parce qu'il y a encore un jeune homme qui s'est levé qui s'appelle Timothée. Et vous voyez, à chaque fois, c'est comme... C'est le fil rouge de toutes les méditations de l'apôtre Paul. Dieu lui a dit dès le début, tu vivras des choses dures, c'est par la souffrance que tu entreras dans le royaume de Dieu. Et à chaque fois que l'apôtre Paul accepte quelque part de lâcher tout contrôle sur sa vie, Dieu permet que, alors qu'il est faible, la force de Dieu rejaillit sur quelqu'un d'autre. C'est merveilleux. Et Timothée est béni de ce que l'apôtre Paul a accepté d'aller à Lystre et de retourner à Lystre. Dans toutes les villes où il passait, il communiquait aux frères les décisions prises par les apôtres et les responsables de l'église de Jérusalem en leur demandant de s'y conformer. Verset 5. Les églises s'affermissaient dans la foi et voyaient augmenter chaque jour le nombre de leurs membres. Alors vous voyez, moi quand je vois un départ comme ça, je me dis, ils sont remplis du Saint-Esprit. Ok ? Ils ont eu l'approbation de l'église de Jérusalem. Je vous ai dit, quand tu pars en mission, ce que Dieu te donne, il le confirme aux autres. Pars pas tout seul. Pars pas comme ça au hasard. Parle lorsque les autres, les hommes que Dieu a placés autour de toi, ils sont sages souvent. Ils te confirmeront que ça vient de Dieu. Pars pas tout seul. Et l'apôtre Paul est parti avec la bénédiction de l'église de Jérusalem. Ça se passe bien. Les résultats sont là. Le nombre des églises grandit. Les personnes se donnent au Seigneur. Mais le verset 6, c'est ça qui m'intrigue aujourd'hui. Ils traversèrent, moi je lis dans la version Le Semeur, vous avez peut-être une autre version, mais le texte est le même. Ils traversèrent la Galatie phrygienne parce que le Saint-Esprit les avait empêchés d'annoncer la parole dans la province d'Asie. Parvenus près de la Mysie, ils se proposaient d'aller en Bithynie, mais là encore, l'Esprit de Jésus s'opposa à leur projet. Ils traversèrent donc la Mysie et descendirent dans le port de Troas. Amen. Alors on est là dans quelques déceptions où Dieu dit non. La première fois, on a dit le Saint-Esprit l'a empêché et après il dit l'Esprit de Jésus ne lui permit pas. Moi ça m'est arrivé dans ma vie, peut-être à vous aussi. Le temps des déceptions. Pourtant ça avait si bien commencé. Est-ce que vous voudriez regardez avec moi une carte qui va s'afficher sur vos écrans. Parce que je pense que si je vous parle de la Phrygie, de la Pamphylie, de la Mysie, de la Galatie, ça ne vous parle pas forcément. Alors la Bible, il n'y a rien qui est du hasard dans la parole de Dieu. Tout est important. Là où l'apôtre Paul, vous voyez le petit bonhomme blanc là, c'est le départ du sprint. Vous voyez la Syrie en bas sur votre écran à droite. C'est de là que part l'apôtre Paul. Il part de la ville d'Antioche. Antioche en Syrie, vous savez, là où pour la première fois, on a appelé ceux qui suivaient Jésus les chrétiens. Bon. Envoyé, c'est son deuxième voyage missionnaire, d'accord? C'est son deuxième. Le premier, c'était super bien passé. Le premier, c'est ce qui est entouré en rouge. C'est toute cette région-là qui l'a béni. Plein d'églises, il y a eu des miracles. Le premier voyage s'est bien passé. Oh, moi, je sais pas, peut-être pas vous, mais moi, lorsque j'ai l'impression que Dieu m'a beaucoup aidé un certain temps dans ma vie, ça me regonfle un peu. Mais ça me rend aussi un peu orgueilleux. Parce que je peux dire, hey, j'ai fait un premier voyage. C'était un vrai succès. On a lancé des églises à Antioche de Pisidie, à Néapolis, on a démarré à Lystre, on a démarré, ouais, c'était énorme. Et quand ils reviennent à Jérusalem, ils sont regonflés, ils repartent à Antioche. Ouh. En gros, ça concerne des personnes ce matin qui sont pas forcément chrétiens depuis une journée, quoi. Je suis en train de parler à toi qui connais Dieu depuis des années. Donc, il part et là, sens interdit, feu rouge pour aller vers le haut. Dieu dit non pour aller en Asie mineure. L'Asie mineure, c'est tout le haut de la Turquie. Alors, image suivante. Il est obligé de tourner. Ensuite, regardez ce que dit le verset suivant. Reprenez le verset. La carte va rester allumée, mais vous prenez le verset. Regardez le deuxième verset. Parvenu près de la Mysie, il se proposait d'aller en Bithynie, mais là encore, l'Esprit de Jésus s'opposa à leur projet. Deuxième sens interdit. Deuxième sens interdit, ça s'affiche sur vos écrans. Ça vous arrive, ça? Le premier sens interdit, la première fois où Dieu nous dit non, si vous êtes sérieux, je ne parle pas de quelqu'un qui n'est pas sérieux. Je sais que lorsque tu veux faire selon le plan de Dieu, tu n'es pas parti comme ça au hasard. Il est parti en se préparant dans la prière. Des fois, Dieu nous dit non parce que c'est du n'importe quoi, nos projets. On va être honnête. Des fois, on ne consulte pas Dieu avant de faire quelque chose. On s'engage dans dans le domaine sentimental ou par rapport à un projet quelconque et on a un non parce que ce n'est pas le plan de Dieu. Mais quelque part, je vais un peu vous provoquer, mais on l'a bien cherché. Puisqu'on ne s'est pas soucié du tout de ce que Dieu pensait. Mais là, au contraire, l'apôtre Paul n'est pas parti au hasard. Il est parti pour servir Dieu, conformément à la volonté de Dieu, avec l'approbation des frères. Moi, je sais pas, mais quand il arrive là, moi, si j'étais lui, quand j'arrive dans le petit lac là au milieu de la Turquie, je viens d'avoir déjà 400 kilomètres dans les pattes. Je suis fatigué. Je suis allé pour évangéliser là-haut. Je pense que c'est quand même formidable. Jésus a dit lui-même, allez par tout le monde. Je fais le boulot, Seigneur. Je comprends pas, Seigneur. Tu as dit d'aller par tout le monde. J'ai déjà été en bas. Je veux aller en haut. Et Dieu me dit non. Des fois, on se demande si le ciel, il comprend bien notre projet, quoi. On dit, Seigneur, mais est-ce que tu as compris que je bossais pour toi? Est-ce que tu as compris que c'est à toi que je veux servir? Moi, je me rappelle d'une fois dans ma vie, je me rappelle très très bien, j'ai passé un concours. J'avais à cœur, vous voyez, déjà dans mon cœur d'enfant, j'avais toujours eu à cœur d'être pasteur. Mais c'était depuis toujours, j'avais envie de que ça soit mon appel pour ma vie. Je pensais que c'était venu de Dieu et j'avais envie de me préparer à cela. Et quand j'ai dit à mon père que j'allais être pasteur, il m'a dit très bien, tu veux être pasteur, fais pas de fac de théologie. Comment ça, papa? Mon père était un prof de fac en histoire. Et pour lui, il dit, il y a trop de pasteurs déconnectés du réel. Il dit, d'abord, tu vas faire des études de choses qui te serviront plus tard. Tu comprendras plus tard. Ah bon, j'ai fait des études de droit, des études d'économie. Ça s'est très, très bien passé. Vous voyez, j'ai fait comme l'apôtre Paul. La première partie était super bien. J'ai fait mon doc de droit, mon doc d'économie. Et c'était très bien. Les résultats étaient bons. Je me suis inscrit à un concours. Parce qu'il y avait un concours, c'est un concours prestigieux qui s'appelle l'ENS, pour ceux qui connaissent l'enseignement, vous savez ce que c'est que ce concours. Et c'était possible de l'intégrer en deuxième année. Et du coup, j'avais travaillé ce concours. J'avais été sérieux dans mon travail scolaire. J'avais fait des heures et des heures et des heures. J'avais regardé les annales, tout ce qui était tombé les autres années à l'épreuve, ça passait. J'avais les résultats, ça devrait aller. J'avais besoin juste d'un petit coup de pouce de Dieu. Ça vous est jamais arrivé de faire un projet où normalement, ça devrait être bon, juste un petit coup de pouce de Dieu et ça passe. Je sais pas si c'est dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel par rapport à tes études, mais tu te dis, avec ce que j'ai là, il n'y a même pas besoin d'un grand miracle, Seigneur. Un petit miracle. J'étais chez ma grand-mère, le concours avait lieu à Rennes, puisque ça avait été délocalisé, et j'étais à Rennes, je me préparais. Le premier jour, j'arrive à l'épreuve. Vous savez, comme un chrétien rempli, j'ai dit, Seigneur, tu as dit que 1000 tombent à ma droite, 10 000 à ma gauche. Moi, je passerai. J'arrive et je regarde le sujet. Vous voyez, c'était en fin de deuxième année de droit et en fin de deuxième année d'éco, puisque je faisais un double doc, et il y avait quelques aspects, comme c'était au mois de mai, il me restait un ou deux chapitres que je n'avais pas eu le temps de traiter. Et je dis, Seigneur, permets que ça ne soit juste pas ces chapitres-là. Et quand j'ouvre, mauvais chapitre. Je dis, Seigneur, c'est quoi cette histoire? J'avais 20 chapitres d'économie, j'en maîtrisais 19, tu mets le 20e. Raisonnement de chrétien, comme raisonnement de l'apôtre Paul, quand tu viens d'avoir un sens interdit en Cappadoce, tu dis, deux possibilités. Soit c'est pas de Dieu, mais on l'écarte. Soit l'autre possibilité, le Seigneur teste ma foi. Le Seigneur veut que je dépende vraiment de lui. Le Seigneur m'oblige à compter que sur ses forces à lui et pas sur les miennes. Le Seigneur peut faire un miracle, même si je maîtrise pas le chapitre. Je fais ce que je peux. Au bout de 4 heures de dissertation, j'étais cuit. J'ai remis ma disserte en la bénissant. Au nom de Jésus, ça passe. Et je suis revenu le lendemain. Je suis quand même allé voir ma grand-mère, une femme de Dieu, quelqu'un qui prie, qui connaît bien le Seigneur. Je dis, mamie, bizarre, j'ai eu un mauvais chapitre. Qu'est-ce que tu penses? Elle me dit, attends. Bon. Le lendemain, j'ai dit, Seigneur, c'est pareil en droit. Il y a 20 chapitres, il y en a 19 que je maîtrise. Seigneur, c'est la deuxième partie de l'examen. Fais-moi plaisir, Seigneur. Pas un chapitre correct, un bon chapitre. J'arrive en face, je me rappelle encore le titre. Hein. Vous savez, quand c'est des vraies anecdotes, on se rappelle de tout. Hein. Le seul chapitre que je n'avais pas traité en deuxième année de droit, c'était le cautionnement. Le cautionnement. J'arrive, je dis Seigneur. Avant d'ouvrir, je dis Seigneur. Tout sauf, j'ouvre le cautionnement. J'ai rigolé, comme vous avez rigolé, mais nerveusement, vous voyez. Cette blague, Seigneur. Et là, j'ai la dame qui surveillait, vous savez, il y a toujours un appariteur qui surveille, elle vient vers moi parce qu'elle me voit rigoler, j'étais un peu le seul dans la salle, tout le monde était en train déjà. Elle vient, monsieur, ça vous plaît beaucoup alors? Ah, pas du tout, c'est l'horreur. Et après le premier moment de rire nerveux, vient un moment de détresse réelle. Et j'ai fait mon devoir. Mais à chaque phrase que j'écrivais, le cautionnement, je ne sais pas ce que vous pouvez écrire, vous, sur le cautionnement, mais moi, je suis au même état que vous, là, d'accord? C'est le cautionnement, allez-y, bonne chance, 4 heures de disserte, faites-moi 8 pages sur le cautionnement, vous savez rien que le mot, quoi. Et encore, le mot, je ne savais pas ce que ça voulait dire trop. J'ai dit caution, j'ai pensé à un appart, j'avais galéré pour avoir un appart, j'étais très mal parti. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi cette affaire? Le Saint-Esprit, j'ai travaillé, j'ai eu un oui, ça, je ne comprends pas, Seigneur. Je rentre avec ma petite voiture sur la 4 voies Brest qui rentrait vers Brest, Rennes-Brest. C'était long. Vous savez, c'est long la vie quand on a mal. Hein. C'est long. Et c'était long. Et là, j'ai dit, Seigneur, tu m'as balancé dans le fossé. C'était impossible. T'as fait exprès. Moi, j'ai fait le chat sérieusement. J'étais fidèle à Dieu. C'est où ta reconnaissance, Seigneur? Oh, je disais pas ça comme ça, mais un peu, quoi, comme toi. Et là, j'ai vu une vision. Vous savez que Dieu a de l'humour, hein. Dieu, c'est, on voit des fois le Dieu dans le ciel. Dieu a de l'humour. J'ai vu un bonhomme Michelin. Vous savez, Bibendum, là. Le truc des pneus, là. Énorme. Et à côté, j'ai vu comme un petit schtroumpf. Comme un petit schtroumpf, mais excité. Vous voyez, schtroumpf nerveux. Si vous rigolez, c'est que vous savez déjà qui je suis, peut-être. Et Bibendum, le gros bonhomme, là, il regardait le schtroumpf et il disait, tu passeras pas. Et schtroumpf nerveux tapait dans Bibendum en disant, tu vas me faire passer, oui. Et Dieu me dit, t'es aussi comme ce petit schtroumpf, tu veux passer, mais je dois te dire non. Ça vous arrive, ça aussi? La première fois, ça fait mal. La deuxième fois, t'es KO. T'es KO. Et c'est ce qui arrive à l'apôtre Paul. Alors vous voyez, quand c'est comme ça, moi je suis arrivé dans mon port à Brest, et je vois que l'apôtre Paul, il allait dans un port à Troas. Regardez la carte, juste l'image d'après. Impasse. Il vient de faire 850 km depuis Antioche. Et puis attention, hein, il n'a pas pris la berline climatisée. Hein. C'est 850 km à pattes, dans la sueur, avec les animaux, la chaleur, 45 degrés. Franchement, vous savez, j'y suis passé parce que j'ai fait un voyage en Turquie. La Phrygie, c'est ce qu'il y a de plus chaud. Tu es dans les montagnes de Turquie, c'est chaud. C'est chaud. Tu passes là. Il est cuit quand il arrive à Troas, il arrive dans le port du bout du monde. Au bout, là où il y a marqué impasse. Et là, je vois l'apôtre Paul qui se dit, mais Seigneur, t'as lâché ton serviteur ou quoi? Tu m'as lâché, Seigneur. Tu m'as lâché. Je suis fâché, Seigneur. Il est seul. C'est la nuit, vous voyez, c'est la nuit. Et puis, il y a tout le monde. En plus, il a pris Timothée avec lui. Vous savez qu'il s'est séparé de Barnabas. Peut-être dans sa tête, il se dit, Seigneur, est-ce que c'est parce que j'ai quitté Barnabas? Est-ce parce que j'ai pris Timothée? Est-ce que j'ai fait quelque chose pas selon ton plan? Et tu te poses 1000 questions. Ça tourne en boucle. Est-ce que tu as une communion avec Dieu? Est-ce que tu as une communion avec Dieu? Est-ce que Dieu et toi, c'est comme un père et un enfant? Est-ce que vous vous parlez? Si ce n'est pas le cas, tu es en danger. Parce que beaucoup de personnes qui seraient comme l'apôtre Paul, quand ils ont une impasse là, vous savez ce qu'ils font? Ils prennent leur Bible et ils la mettent à la poubelle. Ils regardent l'église et disent, je n'irai plus jamais là-dedans. Cette histoire de bon Dieu, c'est que de l'arnaque. Et si tu n'as pas une communion réelle avec Dieu, c'est là où tu plantes Dieu, où tu dis Dieu, c'est fini. Mais, puisque l'apôtre Paul est quelqu'un qui connaît Dieu, regardez le verset 9. Est-ce que c'est possible d'afficher? On arrive à la fin ce matin. Le verset 9. Le verset 8, c'est là encore l'Esprit de Jésus s'opposa à son projet, à leur projet. Ils traversèrent donc la Mysie et descendirent dans le port de Troas. Verset 9. Là, oh, tous ceux qui ont eu la chance de voir Dieu leur donner une issue dans des situations improbables doivent se régaler en lisant ce texte. Là, Paul eut une vision au cours de la nuit. Un Macédonien se tenait devant lui et le suppliait, viens en Macédoine et secours-nous. À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine car nous avions la certitude que Dieu lui-même nous appelait à y prêcher la bonne nouvelle. Amen. Ah, je suis content parce que Dieu me donne une vision pendant la nuit. Alors que tout est noir, Dieu est capable de mettre de la lumière. Je ne sais pas quelle est ta situation ce matin, si dans ta vie tout est noir et tu dis « Seigneur, j'ai l'impression que je travaille contre toi, que tu travailles contre moi. » Quand tout est noir, tu ne peux pas savoir que Dieu, lui, peut mettre de la lumière dans ces moments-là. Et regardez ce qui se passe. Oh, pour tous ceux qui aiment. Vous voyez, au début, vous avez lu, et j'ai lu comme ça, « Non pour la Cappadoce », mais c'était « Oui » pour passer au milieu. D'accord? Vous avez vu « Non pour aller ». C'était quoi? C'était en le deuxième, en Bithynie. Non, mais c'était oui pour passer au milieu, la Phrygie-Galatie. Et vous dites impasse à Troas, mais Dieu dit feu vert à Troas. Et l'image d'après, regardez. En fait, oh, Dieu est Dieu, hein. Que tu puisses regarder cette carte et qu'elle te parle à jamais. Ce que Dieu a fait, c'est qu'il lui a fait passer la ligne directe pour aller à Troas, parce que le verset d'après dit, le Macédonien, donc en face, nous sommes embarqués à Troas et nous avons mis directement cap sur l'île de Samothrace. Le lendemain, nous avons atteint Néapolis. De là, nous sommes allés à la colonie romaine de Philippe, ville du premier district de Macédoine. Et nous avons passé plusieurs jours dans cette ville. Dieu lui a fait tracer du direct. S'il te plaît, encore un tout petit peu la carte. Dieu a fait qu'ils ont traversé la Turquie, ligne droite, parce que Dieu avait prévu qu'ils arrivent à Troas, ligne droite pour aller à Philippe de l'autre côté. Tous les noms de Dieu étaient des oui de Dieu. Vous imaginez ça? Dieu conduisait chacun des noms pour le bien de l'apôtre Paul. Sans le savoir, alors que lui disait « Seigneur, 850 km pour avoir un nom !» Dieu lui disait 850 km pour être le plus près de là où je t'envoie. C'est énorme le plan de Dieu. Il a pris le bateau, petite traversée, 2 jours de plus, il était à Philippe. Et là, Dieu lui disait, je t'ai fermé l'Asie, donc la Turquie, pour t'ouvrir la Grèce. Et je t'attends en Grèce. Et le deuxième voyage de l'apôtre Paul est un voyage qui commence très mal, mais tout est conduit par Dieu. Parce que Dieu l'attend en Grèce. Et je bénis Dieu parce que dans quelques temps, tu vas lire qu'il va fonder une église incroyable à Thessalonique. C'est la lettre aux Thessaloniciens. Tu vas voir qu'il va faire une lettre formidable à Corinthe. Corinthe, c'est la plus grosse ville de Grèce avec Athènes. Dieu conduit toutes choses. Dieu est Dieu. Et le Saint-Esprit, derrière tous ces noms, avait un projet et un grand oui derrière. Moi, j'étais tellement en colère, c'est avec le temps que tu vas le comprendre. Mais je repense à ce concours qu'est l'ENS. Quand moi j'étais fâché contre Dieu, quand le petit schtroumpf nerveux tapait dans Bibendum. Et c'est 3 ans plus tard que j'ai eu l'explication. Parce que 3 ans plus tard, vous voyez, j'ai passé le concours qui allait après l'ENS, qui s'appelle l'agrégation. Et Dieu me l'a donné. Et alors je me suis dit, mais Seigneur, j'ai perdu combien de temps? Zéro! En fait, ce que Dieu avait permis que je fasse, c'est qu'il m'a dit, écoute, là où tu veux aller, je sais. Et le chemin n'est pas le même, mais le résultat est le même. Et si c'est dans ma volonté, laisse-toi conduire pour le chemin, l'objectif que j'ai fixé pour toi ne change pas. Est-ce que vous êtes prêt à vous laisser conduire par le Saint-Esprit? Dieu est Dieu dans ta vie. C'est trop facile de dire, Seigneur, je te prie, s'il te plaît, je suis prêt à te suivre. Mais dès qu'il vous dit un non, vous faites la tête. On va fermer les yeux ce matin. On va prier parce que le Saint-Esprit veut te conduire des fois là où tu ne penses pas aller. Et il sait exactement ce qu'il fait. Ce matin, je pense qu'il y a des personnes qui ont eu des déceptions là et qui disent, Seigneur, pourquoi tu as permis que cette personne que je pensais qu'il sentimentalement était pour moi, ça soit un non, Seigneur. Seigneur, je ne comprends pas. J'ai bien fait les choses. J'ai pris le temps, Seigneur. Je me suis placé devant toi. J'ai demandé le conseil de Dieu. J'ai demandé le conseil des personnes qui étaient ancrées en toi. Et j'ai eu un non, Seigneur. Peut-être par rapport à dans le domaine du logement, dans le domaine du travail. Par rapport à ta famille peut-être, par rapport à un de tes enfants. Tu ne comprends pas pourquoi c'est allé de travers comme ça. Et Dieu te dit, est-ce que je suis Dieu? Est-ce que tu crois toujours que le Saint-Esprit, à qui tu as un jour remis les clés de ta vie, est toujours celui qui conduit la voiture? Alléluia. Ferme les yeux ensemble et heureux. On va laisser l'équipe de louange nous conduire dans un champ, mais toi à ta place, commence à repenser à ta vie, à dire Seigneur, je confirme ce matin mon engagement du début. Je t'ai dit un jour que tu étais Dieu dans ma vie. Je te le redis ce matin, tu es Dieu dans ma vie.
À tes pieds, je dépose mes fardeaux. À tes pieds, prosterné, ma volonté je soumets. Prends mon être entier. Je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, Jésus mon roi, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi. Jésus, bon roi, me voici, te donnant tout ce que que j'ai, ce que je suis. Que ma vie soit sensible à tes souhaits, ô Seigneur, me voici. Je m'abandonne.
Te donner l'occasion ce matin, toi qui es là dans cette salle et qui a vraiment, et on va garder les yeux fermés, mais ça te concerne peut-être une, deux, trois, quatre, cinq, je ne sais pas combien de personnes, mais qui ont été vraiment fâchées contre Dieu. Fâchées contre Dieu. Où tu en as voulu à Dieu, tu as dit Seigneur, c'est n'importe quoi, ton dessein pour ma vie, c'est n'importe quoi. Je ne comprends pas, Seigneur. Et je vais te donner une possibilité. C'est que tu te lèves avec nous. Je demande à tous ceux qui veulent se lever. Et je donne cette possibilité à tous ceux qui veulent se lever parce que vous avez envie de replacer votre vie entre les mains de Dieu. Levez-vous à votre place. Levez-vous avec moi, on va reprendre ce chant. Si tu veux te lever, que tu te sens libre, quelle que soit la raison pour laquelle tu te lèves, tu dis Seigneur, je m'abandonne à toi. On va prendre ce chant debout parce que on a tellement... Criez au ciel, critiquez le ciel. On veut se lever pour Dieu ce matin. Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Me voici, me voici. Me voici. Te donnant tout ce que j'ai, ce que je suis. Que ma vie soit sensible, que ma vie soit sensible à tes souhaits. Oh Seigneur, me voici. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Jésus, mon roi. Je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi. Jésus, conduis-moi. Saint-Esprit, on peut le dire, conduis-moi, 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 ô Saint-Esprit.
Est-ce que tous ensemble on peut se lever avec les enfants dans cette salle? Je m'abandonne à toi. On va reprendre une dernière fois ce cœur. Pour terminer ce culte, que vraiment ça soit le cri de nos cœurs ce matin. Alléluia.
Me voici. Me voici. Te donnant tout ce que j'ai, ce que je suis. Prends tout Seigneur. Prends tout Seigneur. Que ma vie soit sensible à tes souhaits. Oh Seigneur, me voici. Je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, Jésus, mon roi, je m'abandonne à toi. Je te fais confiance. endroit. Je te fais confiance, je te fais confiance, je te fais confiance. Oh, Jésus, pour moi, encore une fois, je te fais confiance, je te fais confiance, je te fais confiance, Jésus, pour moi, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, Jésus mon roi. Maintenant, de manière symbolique, on va reprendre juste ce refrain que nos voix avec le piano. Et au moment où tu vas prononcer « je m'abandonne à toi », ça veut dire « je te fais confiance, je comprends pas tout, mais je m'accroche à toi. J'ai une communion avec toi qui me permet d'avoir plus de lucidité dans ce que je vis et de te faire confiance, même si je souffre à l'instant, même si ça me semble plus difficile que ce que je pensais. » Je m'abandonne à toi. On peut tous maintenant le proclamer comme une prière d'appartenance à Dieu, de confiance absolue en lui. Maintenant, c'est pour toi un temps de victoire et de consécration avec ton Seigneur. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne.
Terminer ce temps, je voudrais te dire quelque chose. Des fois, le dimanche matin, Dieu te donne des grandes orientations. Il te rappelle ce que tu as besoin de comprendre. Je peux te dire une chose. La vraie vision du Macédonien, qui va redonner un sens à ta vie, tu l'auras sûrement tout seul dans ta chambre un soir. Est-ce que tu as une communion avec Dieu? Il y a des choses que l'on a le dimanche matin, il y a des choses où moi, la réunion doit s'arrêter. On est frustré, on voudrait continuer, mais le temps, c'est fini pour ce matin. Mais ça commence par rapport à ce soir. L'apôtre Paul avait des réunions avec ses collègues, ils ont prié, ils n'ont pas reçu ensemble. C'est tout seul, un soir dans sa chambre, qu'il a eu l'appel de Dieu. Passe du temps avec Dieu et Dieu te bénira. Tiens bon, Dieu sait le chemin qu'il a prévu d'avance. Amen. Alléluia. Vous pouvez reprendre place.